Donc, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur l'intégration des émotions douloureuses. Il semble qu'il y ait plusieurs personnes qui font face à ce type de manifestation. Et on comprend bien que les enseignements du Bouddha ont un seul but, c'est justement se libérer de la souffrance conditionnée. Donc dans une retraite un petit peu plus longue, hein, comme celle-ci, la pratique nous donne quelque part l'opportunité de toucher les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher, à refouler, voire à même pas savoir qu'elles existent. Fort probable que pour certains ou certaines d'entre nous, il y a un certain niveau d'ignorance. On n'a pas l'habitude d'être en lien et en contact comme nous le sommes ici, donc vraiment à proximité de nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a là peut-être une manière d'être en leur présence et de ne pas savoir qu'en faire. Ce qui implique que ici, l'invitation, on va dire, c'est de ne pas ignorer, ne pas refouler, ne pas maintenir à distance. Et aussi, dans un autre registre, ne pas se noyer dedans, c'est-à-dire être envahi. Alors, c'est évident que dans notre parcours, hein, en tant que méditant ou méditante, c'est souvent ce qu'on rencontre. Le fait d'être envahi, le fait d'être noyé, perdu dedans, ou alors de tout faire pour maintenir à distance. Donc ceci est tout à fait habituel, hein? C'est normal. Donc je vais tenter de décrire un petit peu le processus méditatif, parce que c'est en retraite exactement ce qu'on explore. Et on a cette opportunité de pouvoir explorer le processus de la méditation, notre propre processus. C'est vraiment tout le sens d'être en retraite, en silence en plus. Donc on ne va pas faire des théories, mais vraiment tenter de décrire ce qui pourrait se passer et un peu le déroulement. Donc on comprend, et vraiment ça, je crois que c'est très, très aidant, qu'aucune émotion est inadéquate, mais aucune. Donc lorsqu'on dit toute expérience a la même valeur, celle de nous éveiller, celle de nous éclairer et surtout de nous libérer, on est tout à fait honnête, sincère. Donc, il y a là une disposition d'esprit qui fait que on se permet de vivre la totalité de notre existence. Donc, la possibilité, le potentiel de pouvoir ressentir. Alors, plus il y a une disposition à pouvoir ressentir une émotion douloureuse, plus il va y avoir la capacité de la reconnaître, de les reconnaître et de ce fait dans nos relations, dans notre vie, dans notre existence, de moins devoir les agir impulsivement. Et c'est pas rien ça, hein, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de relations, de difficultés au niveau des relations des rencontres. Parce qu'on agit impulsivement, qu'il n'y a pas la conscience, quelque part, de prendre en compte ce qui est là, ce qui est en nous. Donc, ressentir n'est pas la même chose que l'agir. Pour ma part, ça a été vraiment très intéressant de percevoir que pendant longtemps, il y avait cette confusion, en fait, cette confusion de croire que, voilà, pas que je la ressente, parce que si je vais la ressentir, je vais l'agir. Et c'est pas bien. Et donc, c'était intéressant de se dire, mais plus on est dans une disposition de ne pas la reconnaître ou de ne pas sentir ce qui se passe, eh bien, moins on va pouvoir en être conscient. Donc, nous essayons et nous tentons d'aller dans le sens de les laisser exister, sans les complications supplémentaires. Alors, que sont ces complications supplémentaires? Eh bien, les complications supplémentaires sont les jugements, le sentiment d'être inadéquat quand elles sont présentes, le mode blâme, d'aversion, d'autocritique. Tout ceci sont des complications supplémentaires. Pema Chödrön, qui est une nonne tibétaine depuis de très nombreuses années, qui est disciple de Chogyam Trungpa dans la tradition tibétaine, a de nombreux livres en lien avec ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des livres en français qui ont été traduits donc, de l'anglais. Elle est américaine et elle traite vraiment de manière très claire ces sujets. Elle dit, des sentiments comme la déception, l'embarras, l'irritation, le ressentiment, la colère et la peur, au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Donc, dans cette perspective d'éclairer et de présence éveillée, eh bien, il s'agit de pouvoir aller à la rencontre. Maintenant, ceci est un processus. Et un processus, ça veut dire qu'il y a un déroulement. Vous êtes d'accord? Donc, ça implique que, il y a naturellement différents paliers, différentes phases. J'ai donné des cours de méditation dans un contexte de personnes qui étaient enseignants et qui allaient appliquer la pleine conscience dans un registre d'enseignement, d'éducation. Et puis, une enseignante est venue me dire quelques mois plus tard ce qui s'était passé en réalité pour une maman et son fils. Donc, elle a écrit un petit récit et je vais vous le lire. Une enseignante m'a rapporté un échange qu'elle avait eu avec une femme, maman de son élève. L'enseignante était assez contente de pouvoir avoir un élève qui était un peu plus calme. Et donc, la mère disait, il ne sait pas quoi faire de son énergie. Il était, expliquait-elle, généralement prompt à se mettre en colère quand il était confus ou frustré. Mais la pratique de la pleine conscience a changé ce schéma. Un jour après l'école, il m'a simplement dit « Je prends un moment ». C'est justement ce que la pratique de la présence méditative nous aide à faire. Prendre un moment. Donc, il y a là cette dimension de pouvoir éclairer ce qu'on nomme la patience. Et j'ai donné un enseignement avant que vous arriviez sur ce thème de la patience, qui implique que cette patience, ce n'est pas attendre que ça passe, mais c'est bien plus cette qualité de pouvoir donner de l'espace et consentir à vivre tout simplement ce qui se présente, ce qui est là. Mais donner du temps. Autant. Donc, ça implique que cette qualité d'attention aiguisée, où on a un tout petit peu plus de curiosité, et qui nous permet de rester, de demeurer au contact pour simplement se rendre compte, tiens, qu'est-ce qui est là? Et souvent, c'est vrai que c'est un peu caché. Les émotions, elles sont souvent cachées jusqu'à ce qu'elles se révèlent. Puis elles se cachent à nouveau, puis elles se révèlent. Puis il y a comme ça un genre d'ombre et de lumière qui apparaît. Et donc, il est très important de prendre du temps et de bien vouloir avoir la patience du temps de la révélation, c'est-à-dire qu'elle se révèle, de l'apparition. Donc, à un moment donné, dans ce cursus, elles ne seront plus considérées comme des expériences à refouler. Ça implique que l'attitude méditative, ce qu'on a à l'esprit, ben, est un peu différent. Ce n'est pas « je veux m'en débarrasser », mais c'est plutôt « ah ok, voyons ce qui se passe, qu'est-ce qui est là ?» Et c'est ça, donner du temps au temps. Rester en contact pour simplement donner la possibilité qu'elle se révèle. Et ensuite, on va pouvoir apprendre à l'aborder. Mais déjà, qu'elle se montre. Donc, cette qualité de présence va suggérer la possibilité de repérer l'espace entre la situation externe, souvent, qui déclenche une émotion, qui déclenche une réactivité. Et notre réaction conditionnée habituelle à cette situation. Et très souvent, c'est ça, c'est qu'on est porté à vraiment être tellement focalisé, on va dire, hein, focalisé sur la situation externe, sur ce qu'a dit cette personne qui ne m'a pas convenue, voilà, tout ce qui peut être dans le rapport, la relation à l'autre, qu'il n'y a pas le temps de pouvoir vraiment ressentir ce que ça me fait. Ce que ça me fait, ce qui se passe. Cette qualité de présence va nous aider à repérer, mais en donnant de l'espace. Et donc, ça suggère la possibilité de repérer l'espace entre l'événement déclencheur et notre réaction conditionnée. Alors, très naturellement, la première des choses qui va émerger ou dont on va peut-être prendre conscience quand on est en train de, à nouveau, être en lien avec soi-même, c'est la réaction. Je réagis à ce que m'a dit cette personne. Et c'est là que se passe la méditation, pendant un temps. Mais il y a aussi cette extraordinaire capacité, justement, de pouvoir découvrir cet espace entre la tonalité affective, certainement dans ces cas-là désagréable, hein, ce dont on a parlé ce matin et même hier, cette tonalité affective qui est tout le temps là, et là c'est vraiment désagréable, et la réaction qui s'ensuit. Donc de pouvoir constater, ah ouais, c'est vraiment désagréable ce que je vis là. Et encore, c'est léger, hein, comme je dis, ça pourrait être vraiment horrible ou terrifiant, ou je ne sais, je veux dire, énervant, irritant, frustrant. Voilà, donc il y a là une disposition de pouvoir sentir ce qui se passe et simplement donner du temps au temps. Viktor Frankl, ce professeur en neurologie et psychiatrie, il a une phrase que peut-être, j'imagine, vous connaissez déjà, mais elle est tellement parlante. Il dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. » Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté et notre pouvoir de choisir une réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre bonheur. Voilà ce qu'il dit. Alors ça, ce n'est pas un idéal, hein. Ce n'est pas quelque chose à rêver. Hein. C'est vraiment à mettre dans le contexte de notre réalité de chaque jour, ici ou ailleurs. dans cet espace que se trouve notre liberté et notre pouvoir de choisir une réponse. Vous imaginez que dans ces moments-là, vous ayez un choix de répondre plutôt que de réagir, qui fait que c'est la complication supplémentaire. Eh bien, c'est ce qu'apporte tranquillement, progressivement, au fil des retraites, des jours, des mois, je dirais même, j'ose le dire, des années, une possibilité de réponse plutôt que d'impulsion immédiate. Et tranquillement, c'est ça qui se passe. Donc on met de la conscience dans cet espace. Ça implique beaucoup de choses, hein. Ça implique qu'on peut faire de meilleurs choix. Donc on comprend bien que c'est au niveau du ressenti, cette capacité de pouvoir intégrer pour être moins submergé, moins envahi, moins perdu, ou moins à distance, que lorsqu'on a nos schémas habituels. Et dans le processus, c'est ceci qui se passe, tranquillement. Donc par moment, prendre appui sur la zone d'ancrage, comme on vous l'indique ici, c'est-à-dire repérer une zone de plus grande tranquillité, de ressourcement, se retrouver, se rencontrer, alors qu'on est naturellement dans cette atmosphère et cet environnement peut-être troublé ou difficile, on choisit par moment de demeurer au contact de la respiration, si c'est votre zone d'ancrage, ou tout autre type de zone d'ancrage qui vous a porté, qui a été bénéfique, pendant un tout petit moment, voire un temps nécessaire, pour donner de l'espace, pour vivre cette expérience d'un espace plus calme, plus tranquille. Donc ça, ce n'est pas de l'évitement. On peut se dire, ouais, non, mais alors là, du coup, je reviens à quelque chose de connu, à la base fondamentale, et puis je m'occupe plus de ce qui me préoccupe ou de l'émotion. Non, j'y reviendrai. Je reviendrai et je me dis j'ai le temps d'y revenir, en tout cas dans ce contexte. Mais c'est aidant parce que c'est rééquilibrant, voyez. Donc c'est tout à fait judicieux que d'avoir ces temps de pause où on peut intégrer le ressenti et justement avoir une capacité de rééquilibrage par rapport à ce qui émerge. Donc bâtir et demeurer dans une zone d'ancrage est tout à fait judicieux. C'est judicieux pour rassembler l'énergie, c'est judicieux pour simplement tranquilliser notre mental. Et puis c'est aussi tout à fait judicieux lorsqu'il y a justement des fluctuations, des émotions, des troubles de l'esprit. Des états mentaux difficiles. Et ensuite, naturellement, on peut revisiter la situation. Donc là, il y a tout un cursus pour s'aider plutôt que de se noyer. Maintenant, en méditation, et je crois que c'est important aussi, de questionner nos vues, nos idées, nos notions. On a beaucoup d'a priori. Qu'on a entendu en fait. Hein. Se mettre en colère, c'est pas bien. On ne se met pas en colère. Moi, j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petite. Donc, on apprend à ravaler et puis justement être sage. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose, mais dans ce contexte-ci, on sent bien que, en tout cas, ce n'était pas facile de se familiariser. Aujourd'hui, l'éducation est un petit peu plus complexe, intéressante, et qu'on permet justement ce type de vécu d'exister. Donc c'est possible d'avoir des idées préconçues. C'est pas bien ou on a des croyances comme quoi ça va être trop difficile et qu'on ne sait pas où ça va nous mener, que ça risque de prendre des proportions telles que ça devient des montagnes et puis on ne sait plus gérer. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de notre manière de voir, la croyance que j'ai à l'égard de ces émotions, avant même d'entreprendre la méditation à ce niveau-là. Et surtout dans ce contexte, on a souvent une vue totalement idéale ou idéalisée de la méditation, un peu abstraite comme ça, comme si on devait être telles toutes ces statues de Bouddha qu'on voit qui sont complètement tranquilles, sereines, avec des sourires. La représentation est tout sauf une émotion trouble. Donc c'est très intéressant de voir que on peut naturellement créer un modèle idéal dans ce contexte. Ce qui veut dire que c'est judicieux de commencer à, là, par le biais de la réflexion, de sentir, tiens, mais oui, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, les émotions sont un peu plus complexes que les sensations physiques. Les sensations physiques, elles sont franches. Voilà, il y a une brûlure dans une zone corporelle, ou bien une pression, ou bien... C'est assez franc. Une émotion, c'est beaucoup plus troublé. Il y a une coloration au niveau du physique. Hein. Si on a la pression dans la poitrine, par exemple, ou bien... que la gorge nous serre, ben on sait très bien si c'est de l'ordre physique, simplement, parce qu'on a pris un coup de froid, puis qu'on a un petit peu d'encombrement au niveau de nos bronches, ou mal à la gorge, ou s'il y a une coloration émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc on sait très bien que, ah oui, là il y a une émotion. Donc c'est judicieux de séparer la sensation physique de l'émotion elle-même. Donc, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect émotionnel. Et de pouvoir les repérer. Peut-être qu'ils sont tellement imbriqués que c'est difficile de les distinguer, de les discerner. C'est normal. Puis, il y a aussi une constellation naturellement qui est dans l'esprit. Donc, ce sont des états mentaux. Comment est-ce une conscience triste ou comment est-ce une conscience emplie d'irritation? Donc, naturellement, l'impact est dans l'espace physique, mais l'émergence, si vous voulez, leur nature, est de la conscience. Et donc, tout ceci est souvent interdépendant. Ce qui est physique va naturellement donner lieu à des pensées et peut-être que le récit va favoriser un ressenti physiquement. Donc, il y a une interrelation tout à fait claire. Là où ça commence, ben, chacun, chacune a vraiment, quelque part, son propre contenu. Et puis, c'est intéressant de savoir lequel est le nôtre. Est-ce qu'on a plein de pensées qui vont nourrir la peur, par exemple, puis ensuite, on va le ressentir physiquement? Ou pour beaucoup de personnes, c'est wow, « je sens vraiment physiquement », puis après me vient le sens. Donc, c'est intéressant de percevoir notre mode, parce qu'il y a un mode. Je veux dire, on a forcément quelque part des schémas d'habitude. Et c'est ainsi qu'elles deviennent un petit peu plus accessibles. Maintenant, comme l'a dit Nicolas Boileau, c'est un poète du XVIIe siècle qui dit « Chaque émotion parle un langage différent. » Donc, chaque émotion parle un langage différent. Ben, c'est évident que l'émotion de la colère va parler un langage différent de celle de la peur, par exemple. Donc, je vais juste décrire le processus au contact de deux types d'émotions qui sont souvent assez fréquentes. La colère. La colère est souvent en lien avec ce qui a pu se passer, donc des histoires au passé et qui sont présentes en lien avec quelque chose qu'on n'a pas digéré. Donc, il y a souvent des vieilles histoires. On ressent quelque part de l'injustice, du blâme. Et il y a naturellement là une composante d'impressions physiques qui sont que la colère, ben, c'est souvent bouillonnant. Il y a de la chaleur, il y a pouf, on rougit, rougir de colère. Et puis, il y a donc des manifestations tout à fait claires. Et souvent, on est débordé par cette énergie. Et donc, voilà pourquoi, quand il y a un excès d'énergie comme ça, s'il y a de la colère, c'est qu'on n'a qu'une envie, c'est de l'expulser. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être utiliser des autres personnes, des êtres, des situations externes, et puis on agit sa colère par rapport à autrui, sans avoir conscience que cette personne n'est peut-être pas du tout concernée. Maintenant, des fois, elle peut être concernée. Mais c'est important d'avoir une certaine qualité de conscience que s'il y a une expression de cette colère, qu'elle puisse être entendue, que l'autre personne puisse la recevoir. Alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et qui est tellement difficile, c'est qu'il y a, il y a énormément de frustration sous-jacente, c'est-à-dire en dessous, et du coup, on n'a pas le temps de repérer que peut-être il y a un excès de cette énergie. Et du coup, ça sort de façon excessive. Et dessous, ce qui se passe, c'est que naturellement, il y a un sentiment de déstabilisation. Et puis, quand on est dans ces moments-là, l'impression, c'est que le moi, le je, il a bien raison d'être dans cet état. Et ça nous donne de la puissance. Quelque part, on retrouve un gain de pouvoir en ayant en conscience cette dimension, eh bien oui, j'ai raison de me mettre en colère, quel que soit le motif. Et peut-être que c'est vrai, hein? Peut-être que c'est vrai, il n'y a pas de doute que si il y a eu quelque part une injustice, par exemple. Ben, il n'empêche que toutes ces formes-là sont des formes qui font qu'au lieu de se rencontrer et de pouvoir quelque part se sensibiliser à ce qui se passe intérieurement, nous utilisons quelque part la situation, le déclencheur, l'autre comme moyen d'expulsion. Et donc c'est très souvent qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe en nous-mêmes. Donc il y a une phrase célèbre du Bouddha qui dit: avec l'intention de le jeter sur l'autre, en ramassant un morceau de charbon ardent, on se brûle soi-même. On brûle ses ailes. Donc contre un objet. Et donc plutôt que d'utiliser les autres ou même d'avoir à l'esprit l'objet ou la situation, la personne qui est le motif, on va laisser le récit de côté et on va découvrir comment c'est la colère, comment c'est d'être en colère, comment c'est de vivre ça, de le vivre véritablement. Donc, pas tant les explications, le pourquoi du comment, mais être beaucoup plus simple et découvrir dans la méditation, plutôt que le pourquoi, découvrir le comment. Comment émerge cette colère? Comment est-ce de ressentir ces sensations? Et ça, c'est... Oh! Waouh, tellement libérateur dans le sens que on quitte finalement le registre du récit qui tourne en rond et puis qui ressasse et puis qui fait qu'on se perd constamment de le pourquoi, du comment, est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on aurait pu, est-ce qui va naturellement faire qu'on ait simplement en saisit à un niveau. Donc, explorer, examiner cette émotion, comme elle se présente, au contact des sensations corporelles. Et ça prend du temps. Bien vouloir ressentir. Et à ce moment-là, il y a un déclenchement, c'est-à-dire qu'on quitte le scénario « j'ai raison, elle a raison, c'est pas juste », enfin, toutes les raisons pour lesquelles on peut partir dans des récits interminables. Et souvent, il y en a beaucoup, qui fait qu'on cherche une cause. Peut-être qu'on peut faire ça plus tard. Mais en tout cas, ici, dans notre disposition intérieure, on développe cette capacité dans bien vouloir entrer en lien et en relation avec cette émotion comme elle est, de façon extrêmement simple. En donnant de l'espace, en étant patient. Donc tout ceci est un processus. On peut tout à fait aussi, et c'est très aidant, si on en a la possibilité, de se mettre en relation avec Metta. Justement, cette qualité d'allègement, de douceur, qui fait qu'on ne s'enferme pas. Donc, ce n'est pas, quelque part, je transforme la colère en amabilité, peut-être que ce sera, à un moment donné, ce qu'on va pouvoir vivre, mais le but n'est pas là. C'est simplement l'absence d'aversion, l'absence d'habitude, de réactivité, d'aversion et de rejet de cette émotion. L'autre dont j'aimerais dire quelques mots est la peur. La peur, pour moi, était vraiment mon plus grand maître. Depuis toute petite, je dis toujours « hommage à la peur ». C'est incroyable d'avoir ça comme compagne de route depuis si longtemps. Et souvent, c'est ça, c'est que généralement, il y a l'irritation, il y a la colère, il y a toutes les difficultés qui sont là, puis qu'on fait qu'on essaye de reprendre des forces, et puis se dire non, mais il faut y aller, puis voilà, on est en survie. Puis, dessous, en fait, il y a vraiment un sentiment d'anxiété, d'impuissance. Et l'impuissance, ben c'est ça, c'est qu'on a peur de crainte, même de ressentir la peur de la peur. Et du coup, on reprend un petit peu de l'énergie par le biais de la résistance qui nous fait à nouveau prendre une charge d'énergie. Et ce moteur-là, il peut être tout à fait judicieux, hein, cette énergie de base qui nous redonne un peu de vitalité. Mais elle n'a pas besoin de se traduire en colère. À ce moment-là, elle peut se traduire en créativité, en plein de choses qui sont bénéfiques. Donc la peur, c'est souvent quelque chose qui est très sournois, difficile. Difficile à contacter. Moi, j'ai mis vraiment longtemps hein, pour me dire, tiens, ah ouais, c'est de la peur que j'ai. Parce que c'est déstabilisant dans l'autre sens, non pas dans le sens de avoir trop d'énergie. Là, c'est plutôt exactement l'inverse, c'est-à-dire pas d'énergie du tout. Il y a un repli et puis on se sent comme paralysé, hein. Voilà, figé dans la peur. Et du coup, c'est déstabilisant dans le sens de ne plus avoir de terre, de repère. Manque de stabilité, manque de solidité. Quand on dit on tremble de peur. Ouais. Et c'est intéressant parce que quand j'étais en Birmanie pendant vraiment des mois de pratique, j'étais en entretien et puis je décrivais un peu toujours la même chose. J'ai peur. Et puis, il disait, ah, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien de vivre ça. Et puis je me dis, non mais franchement, quelle insensibilité. Et en réalité, c'était juste accepter la réalité, d'accueillir cette émotion-là comme l'émotion de la joie ou comme l'émotion du calme ou de la tranquillité. Et il disait, sois tellement présente que tu vois, tu perçois, tu es déjà là quand elle va arriver. Vous vous rendez compte? Ça veut dire vraiment d'être au contact. Hein. Et du coup, c'est la présence, la pleine conscience qui va prendre le dessus sur la peur. Et de ce fait-là, elle n'a pas de raison de prendre du pouvoir sur toi. Alors, c'est un processus, hein, nouveau. Donner du temps au temps, l'espace de se ressourcer au contact du point d'ancrage, vivre l'instabilité. Et là, c'est rester très proche pour essayer de ne pas anticiper. Autant la colère, c'est souvent par rapport au passé, que la peur, c'est la peur de ce qu'on anticipe, ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer. Du coup, généralement, quand on remplit cet espace, qu'on veut contrôler la vie, qu'on veut contrôler l'avenir, et qu'on l'organise, on est une personne qui est vraiment très, très organisée. Et qu'on met tout vraiment pour que ça se passe comme on le souhaiterait, ben c'est très intéressant de percevoir que l'imaginaire, quand on a tout organisé, ben il va quand même dans ce registre d'imaginer le pire, le pire de ce qui pourrait se passer. Je trouve ça fascinant. En tout cas, c'est comme ça que l'esprit a fonctionné pendant assez longtemps. Et quand on est en méditation, de cette façon, c'est oh, le moment suivant, bah, il va être insupportable. Mais c'est un récit, c'est une façon de se parler. Donc quelque chose de désastreux va arriver. Si on a un schéma d'habitude de vivre avec la peur, on va pouvoir commencer à être conscient de ce type de pensée. Et du coup, plutôt que de remplir tout le temps, remplir tout, accumuler plein d'expériences, dans le sens de toujours être affairé, toujours vouloir occuper l'espace, eh bien, cette capacité de se dire, tiens, non, il ne s'agit pas de fuir ou d'aller dans le sens de s'échapper, mais de demeurer. Et j'ai tellement bien compris pourquoi le maître que j'avais, qui était forcément en Birmanie un moine, m'avait donné ce conseil tellement judicieux de simplement demeurer présent, conscient, et de percevoir dans ces moments-là, avec ces émotions douloureuses, qu'elles aussi, eh bien, elles sont impermanentes, qu'elles vont et viennent, qu'elles vont et viennent, et que ça ne dure pas pour toujours, comme on pourrait le croire. Alors c'est tout autre chose de se dire, ah mais quand est-ce que j'en aurai fini de cette émotion et que c'est ça qui guide ma vie, que de le vivre vraiment dans l'espace de la présence et pouvoir percevoir l'émergence et la dissipation, l'évanouissement de ce type de manifestation de vie, mais qui est tellement riche, tellement riche. Donc on apprend et on apprend à être moins résistant, moins enfermé, et du coup on apprend à les accepter, simplement pour ce qu'elles sont. De la même manière qu'on peut peut-être accepter une douleur physique. Et on apprend aussi à s'accompagner lorsqu'il y a de la résistance. Le fait de dire non. En ce moment, non, j'ai pas envie, ben, on respecte ça. On respecte pour un temps cet aspect de la résistance. C'est complètement OK. C'est cette authenticité-là qu'on explore. Donc, dans le Satipatthana, ce texte dont a parlé Charles, bien, il est dit tout à fait clairement, le méditant ou la méditante contemple si l'esprit est affecté par la peur, il sait l'esprit est affecté par la peur. Il sait si l'esprit n'est pas affecté par la peur, il sait comment l'esprit est affecté par la peur lorsque la peur émerge et lorsqu'elle disparaît. Donc vous voyez que là, dans ce registre, il y a simplement une qualité de conscience d'instant en instant. Un instant, un instant. Et quelque chose se passe. Donc il y a vraiment deux choses qui doivent changer par rapport à notre comportement habituel. C'est cette bonne volonté de bien vouloir rencontrer les difficultés lorsqu'elles apparaissent, tout en ayant soin d'être vraiment bienveillant et donner du temps au temps. Que ça ne se fait pas en une fois, que ça se fait dans un espace de paix, de tranquillité, et que tranquillement, on sent qu'on a une plus grande capacité. C'est absolument génial de pouvoir sentir ça. On est tout simplement moins intimidé. Et ça, c'est super. Moins intimidé dans le sens qu'on les prend moins aussi personnellement. C'est vraiment, comme tout, une expérience qui va et qui vient et qui va. Donc, laissez un peu le récit de côté, parce que l'histoire que je me raconte, elle ne fait que tourner en rond et vivre un tout petit peu plus clairement, de façon très immédiate, l'émotion elle-même, comme une sensation, comme un son, comme une pensée. Ça, c'est un autre changement. Souvent, je tourne en rond dans le récit. Et plus je tourne en rond dans le récit, plus je pense à ce qui me met en colère, plus je serai en colère. Sans la voir, sans m'en rendre compte, sans pouvoir l'aborder. Donc on comprend bien que toutes ces émotions sont universelles. Quand je parle d'une peur ou d'une émotion d'irritation ou de frustration ou de joie ou de tristesse, on sait de quoi je parle, vous êtes d'accord? Donc ce n'est pas personnel, ce n'est pas que vous qui ressentez ça. Tout être a cette possibilité de ressentir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on partage au niveau de notre humanité. On n'a pas à se condamner ou à se juger pour ça. On a cette richesse de pouvoir vivre au contact de la vie tout entière. Donc, Pema Chodron dit « La liberté ici n'est pas d'être délivré de nos émotions, c'est d'être délivré de notre habitude de les compliquer. » Voilà, je vais terminer avec un texte de John O'Donohue dans Benedictus. C'est un poète, un mystique, un philosophe irlandais, et il a de très beaux textes. Il dit « Puisse mon esprit s'éveiller aujourd'hui à l'invisible géographie qui m'invite à franchir de nouvelles frontières, à briser la coquille défunte des jours passés, à prendre le risque du trouble et du changement. Puissais-je avoir aujourd'hui le courage de vivre la vie que j'aimerais ? À ne plus différer davantage mes rêves, mais faire enfin ce pourquoi je suis venue et ne plus laisser la peur gâcher mon cœur. » Je vous le souhaite, si c'est le cas, de pouvoir briser la coquille et de vivre plus librement. C'est en tout cas l'invitation de ces enseignements. Merci de votre écoute.